Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Face à l'info, 19h, c'est l'heure. Ravie de vous retrouver ce soir. Tout de suite, le JT, Isabelle Piboulot.
Nouveau gouvernement, Emmanuel Macron temporise. La première ministre planche sur sa composition. Un processus qui requiert du temps, précise Elisabeth Borne. Le chef de l'État affirme que le travail continue de manière sérieuse, mais cela n'est pas une chose légère et prendra autant de temps que nécessaire. Et en attendant l'annonce du nouveau gouvernement, premier déplacement officiel pour Elisabeth Borne aujourd'hui. La nouvelle chef du gouvernement s'est rendue au Mureau dans les Yvelines. L'occasion d'échanger avec des représentants d'associations locales et nationales. Au menu, égalité des chances et émancipation des jeunes femmes. La première ministre a encouragé ces dernières à aller au bout de leurs rêves. Christian Jacob demande à Damien Abad de quitter la tête du groupe LR à l'Assemblée. Damien Abad est au centre des spéculations sur un éventuel ralliement à la Macronie, voire une entrée au gouvernement. La majorité ne présentera pas de candidat face à lui dans la 5e circonscription de l'Ain pour les législatives. Le président des Républicains attend que la situation soit clarifiée.
Au sommaire ce soir, l'ascenseur social existe-t-il encore? Nos enfants vivront-ils moins bien que nous? Une étude de l'INSEE donne quelques signes positifs, alors que le sentiment général est plutôt un pays en décadence d'une génération à l'autre. Quels sont ces signes d'espoir? Le décryptage de Dimitri Pavlenko. L'autre choc pétrolier qui nous menace et qui est sans doute pire que la hausse des prix du baril, c'est l'explosion des prix du raffinage. La marge entre les prix du brut et ceux du pétrole raffiné ne cesse d'augmenter. Quelles conséquences inattendues pour le consommateur? L'analyse de Jean-Sébastien Ferjou. Pourquoi le Parlement européen refuse-t-il le débat sur la persécution des chrétiens? Il a refusé d'aborder la christianophobie et notamment le cas de cette jeune étudiante nigériane lapidée, brûlée par des islamistes dans son pays. La haine envers les chrétiens augmente dans le monde. Quelles conséquences chez nous, en France? L'analyse de Charlotte Dornelas. Portrait d'une des grandes figures de l'histoire, un homme qui a sauvé la France, le Grand Condé, 19 mai 1643, jour pour jour, 7 ans après les débuts de la guerre d'Espagne, il va sauver la France, le duc d'Enghien, que l'on appellera le Grand Condé, cousin de Louis XIV, un homme emblématique qui malheureusement finira par mener la fronde contre le roi. Marc Menon raconte. Que se passe-t-il dans nos hôpitaux français? Alors que les urgences du CHU de Bordeaux vont fermer, la nuit, faute de personnel, alors que le président des urgentistes, Patrick Peloux, a annoncé que l'été va être atroce, je cite, du jamais vu. Mais que se passe-t-il donc dans nos hôpitaux alors que la pandémie recule? L'édito de Jean-Sébastien Ferjou. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos éditorialistes, c'est maintenant. Ravie de vous retrouver, Charlotte, en forme.
Il fait chaud à Montréal.
Oui, on pense à Mathieu Bocoté qui n'a pas été avec nous toute la semaine. On voilà, pense à lui,
il sera là la semaine prochaine. Il fait chaud et ils l'ont accueilli, alors ça les a mis, vous voyez, un peu en fièvre.
On attend la photo de Mathieu en bikini. Voilà.
Comment? Sur le débarras de Mathieu Bocoté, le dérèglement climatique c'est réglé.
Voilà, c'est réglé. Allez, bonjour Mathieu.
Comment ça va, mon Dimitri?
Ça va très bien.
La matinale se passe bien à Europe 1?
Ah, du feu de Dieu.
Il y a de plus en plus de personnes qui me disent qu'ils vous écoutent.
Mais oui, hein. Il faut écouter Europe 1.
Bien sûr, bien sûr. 6h30, on m'a dit surtout quand Charlotte est là.
J'ai la chance de l'avoir deux fois par semaine à ma table.
Hein. Ouais, non, elle est exceptionnelle. Et ça vous fait du bien de remplacer un peu Mathieu? Ça fait quoi?
D'arriver à l'heure, c'est pas...
Oui, pour une fois que vous êtes à l'heure, on va souligner.
Champagne. L'expérience.
Bon, merci d'être avec nous. Dimitri, on commence avec vous. L'ascenseur social fonctionne-t-il encore? Nos enfants vivront-ils moins bien que nous? Ces questions hantent les Français qui partagent assez largement l'idée que le pays serait en déclin, en décadence. Une étude de l'INSEE parue hier vient un peu nuancer ce constat. Elle montre que la mobilité sociale existe encore.
Alors, juste, si vous me permettez, déclin, décadence, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le déclin, c'est passager, on peut remonter. La décadence, c'est irréversible. Et heureusement, nous ne sommes peut-être pas en décadence, peut-être en déclin, mais la décadence, ça reste quand même encore à prouver. Et c'est vrai que les données qu'on a de l'INSEE, là, dont je vais vous parler, ont tendance à peut-être nous rassurer un peu. Alors, pour faire simple, le message de l'INSEE, parce que vous trouverez l'étude facilement sur le site internet de l'INSEE, il y a un graphique que je voulais vous montrer. Et Myriam, qui nous assiste à la réalisation de cette émission, m'a dit « Non, on ne va pas le montrer, c'est trop compliqué. »
Non, mais j'ai vu, honnêtement, Dimitri, j'ai vu votre graphique, oui, il est très beau, compliqué à comprendre.
Ah, mais c'est pas le mien, alors, c'est celui de l'INSEE.
Oui, mais expliquez-nous. Voilà. Si on le montre, les téléspectateurs ne vont pas comprendre.
Oui, voilà, j'ai passé du temps. Alors, en résumé, ce n'est pas parce que vos parents sont pauvres que vous êtes condamné à rester pauvre ou modeste. Et inversement, ce n'est pas non plus parce que vos parents sont riches que vous avez la garantie de le rester. C'est ça le message de cette étude. Ça nous montre que le corps social, qu'on a tendance à imaginer comme quelque chose de figé, les pauvres sont pauvres, les riches sont riches et ça ne changera jamais. Ben non, c'est pas vrai. Il y a une mobilité sociale qui se fait d'ailleurs dans les deux sens, ascendante comme descendante. Alors, il faut aussi voir que la structure sociale a beaucoup changé aussi par rapport aux grandes années de l'ascension sociale généralisée, c'est-à-dire les années 60-70. Mais bon, d'abord, voyons ce que nous dit l'INSEE. Alors, elle a travaillé sur ce qu'elle appelle la mobilité intergénérationnelle des revenus. C'est quelque chose qui était assez peu documenté. En gros, on savait dire combien d'ouvriers étaient devenus, combien d'enfants d'ouvriers étaient devenus des cadres. Mais en termes de revenus, de salaires, on savait un petit peu moins bien. Et en croisant des données, des impôts, de la CAF, de la retraite, etc., l'INSEE a pu produire donc ces données. Alors, la comparaison, l'INSEE l'a fait entre les parents et les enfants de 28 ans. Pourquoi 28 ans ? Parce qu'à 28 ans, on est en début de carrière. Surtout, 99,9% des jeunes ont terminé leurs études. On fait les études de plus en plus longtemps, mais à 28 ans, généralement, on est déjà entré dans la vie active. Alors, évidemment, en début de carrière, on gagne moins bien sa vie qu'en fin de carrière. Mais enfin, déjà, on voit se dessiner les tendances si les enfants ont devant eux une plus belle carrière que ce qu'ont eu leurs parents ou inversement. Alors, si on découpe l'ensemble de la population française en 5 groupes, prenez 5 groupes, donc les plus modestes, 3 tranches du milieu et les plus aisés au bout. Donc vous avez 5 quintiles. Qu'est-ce qu'on voit ? Que si vous prenez le premier quintile, c'est-à-dire les 20% les plus modestes, les plus pauvres, vous en avez quand même 70% qui vont gagner mieux leur vie que leurs parents. Donc vous voyez, l'ascension sociale, ça existe. 70%, vous avez 30% d'enfants modestes qui resteront modestes comme l'étaient leurs parents, mais 70%, plus de 2 sur 3, qui gagneront mieux leur vie. Et vous en avez même 12% qui vont intégrer les 20% les plus riches. Donc vous voyez, ça fonctionne. Et inversement, dans l'autre sens, on voit que les enfants des parents les plus aisés, il y en a un gros tiers, 1 sur 3, 34% qui resteront dans ce groupe des plus aisés. Mais vous avez quand même 66% qui le seront moins. Et vous avez même 15% des gosses de riches, si je puis dire, qui vont terminer pauvres, qui finiront dans la classe des plus modestes. Et donc, vous voyez, les enfants des plus pauvres, des fois, deviennent les plus riches et inversement. Et on voit que j'ai parlé des deux extrémités, mais les 3/5 du centre, soit quand même 60% de la population, près de 2 Français sur 3, on voit que cette classe moyenne élargie, il y a beaucoup de mobilité, mais elle, pratiquement à égalité dans les deux sens. C'est-à-dire que vous êtes au milieu du corps social en termes de revenus, vous avez une chance sur deux que vos enfants soient plus riches que vous, mais aussi qu'ils soient plus pauvres.
On peut regarder encore le tableau qu'elle nous a montré, Myriam. Non, parce que...
Mais les chiffres-là disent tout, en fait. Vous voyez,
69% des enfants ont des revenus supérieurs à leurs parents. Et parmi les familles les plus aisées, 72% des enfants ont des revenus inférieurs à leurs parents. Oui, ça parle beaucoup. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on monte ou qu'on descend sur l'échelle des revenus ?
Alors voilà, ça aussi c'est intéressant, parce que l'INSEE s'est demandé... Pourquoi ? Qu'est-ce qui explique cette mobilité sociale ? Alors, d'abord le sexe. Désolé mesdames, mais c'est triste à dire, mais c'est documenté. On voit qu'on monte plus facilement dans l'échelle sociale, dans l'échelle des revenus, quand on est un homme.
On l'avait compris.
Qu'une femme. Oui, mais bon, malheureusement, il faut le rappeler. Ouais. Alors ensuite, vous avez la famille. Ça, c'est un facteur qui est important. C'est-à-dire que ça arrive plus souvent l'enrichissement quand on a papa et maman à la maison. Ça arrive plus souvent quand on a un frère ou une sœur, deux maximum. Au-delà, dans les familles nombreuses, c'est plus difficile. Mais le cas le plus compliqué, là où vraiment s'extraire de sa classe sociale, en tout cas ne pas en décrocher, c'est quand on est avec une maman célibataire. Ça reste le cas de Philippe. Pourquoi ? Parce que les enfants de mères célibataires, ils commencent généralement à travailler jeunes, parce qu'il faut aider à la maison.
Famille monoparentale,
c'est vrai.
Non, 85% sont issus de divorces et séparations et 11% issus de veuvages, comme par exemple... notre première ministre.
Et vous avez tout à fait raison. Alors, si la famille a du patrimoine, alors là, c'est ambigu. Le patrimoine, c'est par exemple si on a des appartements, ce genre de choses, c'est-à-dire plus que le salaire, l'argent vraiment, des choses que l'on possède. Là, c'est assez ambigu, c'est-à-dire qu'effectivement, ça va soutenir les enfants, surtout s'ils mènent des grandes études, qu'il faut aller à l'étranger, ce genre de choses. Mais il y a aussi des familles où on voit les enfants complètement se démotiver. Pourquoi je travaillerais après tout ? Toute la voie est tracée. Ma famille a déjà tout, j'ai rien à faire. Et en fait, vous voyez que dans le groupe des déclassés, des plus aisés, c'est-à-dire des 20% les plus riches qui tombent dans la classe des plus modestes, souvent c'est ce cas de figure-là. Alors il y a aussi un facteur géographique, comme toujours. Et là, on a quelques surprises, parce qu'on voit que les grandes ascensions salariales, elles se produisent trois fois plus souvent en Île-de-France que dans les Hauts-de-France. Ce sont vraiment les deux extrémités. Ces deux régions, c'est vraiment les deux extrêmes. Et le cas francilien est intéressant parce que la région, sur le plan de la mobilité sociale, on voit qu'elle est très homogène. C'est-à-dire que les grandes ascensions sociales, elles ne sont pas réservées aux Hauts-de-Seine, à Paris, aux départements riches, si vous voulez. Mais elle est égale en Seine-Saint-Denis, par exemple. Ce qui remet un petit peu en cause le diagnostic que faisait Emmanuel Macron sur la fameuse assignation à résidence. Vous êtes né à Aubervilliers, vous ne sortirez jamais d'Aubervilliers. Eh ben non, l'association sociale à résidence, la vraie assignation, elle est dans le Nord, en Normandie, en région Occitanie, dans le Grand Est, en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez, on a fait une bonne grosse moitié de la France quand même, où les enfants ont tendance soit à rester dans la classe sociale de leurs parents, soit à décrocher, à être plus pauvres qu'eux. Et en Île-de-France, on voit que dans toutes les grandes villes, en fait, que ce soit Bordeaux, Marseille, Nantes, etc., il y a plus d'opportunités qu'ailleurs. Et on voit que les enfants d'immigrés qui résident plus souvent dans les grandes villes bénéficient plus facilement de cette ascension sociale.
Passionnant. Mais Dimitri, est-ce que ça veut dire qu'on a une perception fausse de la réalité sociale ? Qu'on se trompe quand on dit que l'ascenseur social ne fonctionne plus ? On l'a souvent dit ici.
Oui, on l'a souvent dit, vous avez raison, mais je dirais oui et non. On se trompe parce qu'on l'a vu, vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui individuellement s'en sortent bien, finalement, ils font mieux que leurs parents. En revanche, là, on a raison de dire que c'est moins bien qu'avant, c'est que, en fait, en 40 ans, la mobilité descendante... elle a beaucoup plus progressé que la mobilité ascendante. Regardez les chiffres. Selon l'INSEE, c'est un comparatif entre l'année 77 et l'année 2015. On voit que en 77, il y avait 23% des enfants qui arrivaient à se hisser dans la société par rapport à leurs parents. 28% en 2015. Mais la position sociale inférieure, c'est-à-dire la mobilité descendante, on voit qu'elle a plus que doublé entre 77 et 2015. Si vous rassemblez ces deux chiffres, ça nous dit quoi ? C'est qu'en 77, vous aviez en gros 30% des enfants qui allaient bouger de classe par rapport à leurs parents, que ce soit en ascension ou en descente. Aujourd'hui, c'est 43%. C'est près d'un enfant sur deux qui aura des revenus soit inférieurs, soit supérieurs à ses parents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la stabilité sociale est bien moindre qu'elle ne l'était par le passé. On peut réussir en France, mais aussi on peut chuter. Et pas de bol, on l'a vu que la distribution des chances, géographiquement, elle est assez peu équitable. Et on voit aussi que c'est la classe moyenne, c'est-à-dire les 60% du milieu de la société, qui sont le plus sous pression, ceux qui ont le plus de chances, finalement, de décrocher ou de monter. Et cette classe sociale, Nicolas Sarkozy un jour avait dit, c'est tous les gens qui sont trop riches pour être pauvres, mais trop pauvres pour être riches. C'est-à-dire les gens qui vont pas forcément avoir le bénéfice des aides sociales, mais qui ne peuvent pas non plus faire de l'optimisation fiscale. Alors je vous donne un exemple pour montrer la fragilisation de la classe moyenne. Les prestations sociales, entre 1975 et 2016, elles ont baissé globalement de un quart. Mais les 10% les plus modestes captait 25% de la manne des prestations sociales en 75. Aujourd'hui, c'est 46%. C'est la moitié. Pour les 10% les plus pauvres. Ça veut dire que l'État-providence s'est concentré sur les plus modestes qui bénéficient de l'effet générateur d'ascension sociale, beaucoup plus qu'aujourd'hui les classes moyennes. Ce qui explique sans doute le sentiment de déclassement qui est au cœur de la société française à tous les sens du terme.
Vraiment passionnant. Merci beaucoup, Dimitri. La Minute Info, et on continue.
Prison à vie requise pour le soldat russe jugé à Kiev pour crime de guerre. Au deuxième jour du procès, le sergent Vadim Chichimarin, âgé de 21 ans, a demandé pardon à la veuve du civil ukrainien tué le 28 février. Deux autres militaires russes sont jugés par un tribunal ukrainien pour avoir lancé des roquettes sur des infrastructures civiles dans la région de Kharkiv. Adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. L'Alliance Atlantique veut rassurer la Turquie. C'est ce qu'a déclaré le patron de l'OTAN au cours d'un déplacement à Copenhague, désireux de trouver un accord pour aller de l'avant. Le président turc est réfractaire aux candidatures d'adhésion des deux pays nordiques. Son homologue finlandais a assuré être prêt à discuter avec lui de toutes ses inquiétudes. La Corée du Nord sur le point de procéder à un essai nucléaire. Selon les États-Unis, cela pourrait se produire lors de la visite du président américain en Corée du Sud demain en fin de journée. Joe Biden rendra visite à certains des 30 000 soldats américains stationnés dans le pays avant d'aller au Japon.
Les marchés et les médias suivent en général le prix du baril et notamment celui du Brent. Vous allez nous expliquer tout ça, Jean-Sébastien Ferjou. Pas celui du pétrole raffiné. Pourtant, la marge entre les prix du brut et ceux du raffiné ne cesse d'augmenter. Il faut qu'on s'y intéresse. Vous allez nous dire pourquoi. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le front de ces prix? Et en quoi, vous allez nous dire tout à l'heure, ça a une conséquence sur nos vies?
Effectivement, vous l'avez dit, en général, on parle du prix du baril, et quand on parle du prix du baril, on parle du prix du Brent. Alors, il y a d'autres observateurs qui suivent le West Texas Intermediate, mais souvent, on regarde donc le prix du Brent, donc un baril. En ce moment, il est à combien? Il est à 110 dollars, à peu près. Ça fait à peu près 104 euros. Et donc, 110 dollars, c'est pas le pire de ce qu'on a connu. Par exemple, fin février, c'était 130 dollars après le déclenchement de la guerre en Ukraine. C'était 70 dollars en novembre dernier, mais la moyenne n'était quand même pas très éloignée, était plutôt ces dernières années entre 80 et 100 dollars. Donc quand on voit ça, on a l'impression que ce n'est pas un choc si énorme que ça. Sauf qu'il y a une grande différence, parce que Christine, j'imagine que vous ne raffinez pas de pétrole brut dans votre cuisine. J'imagine que Marc, vous n'avez jamais envisagé d'offrir un baril de brut à Charlotte pour son anniversaire. Donc, alors que Charlotte, il faut que chacun le sache, rêve qu'on lui offre un baril de brut pour son anniversaire.
Il y a coupé en deux pour les barbecues.
Mais l'autre brut.
Mais donc, voilà, en gros, personne n'achète du brut. Donc ça nous fait une belle jambe, comme dirait l'autre. En revanche, ceux qui achètent, ce sont les raffineries, parce que la différence entre le brut et... le pétrole raffiné, ben c'est ce qu'il y a à la sortie. À la sortie, derrière, ben, il peut y avoir du diesel, il peut y avoir du super, il peut y avoir du kérosène, il peut y avoir de l'asphalte. Enfin, il y a des tas de produits qui sont fabriqués à partir du pétrole. En général, les deux évoluent en parallèle. Sauf que là, ils n'évoluent plus en parallèle. La semaine dernière, la marge, elle a atteint 55 dollars. Et 55 dollars, encore, c'était la marge moyenne. C'est-à-dire, pour le diesel, c'était bien plus. Donc, c'est-à-dire, au prix du baril, vous rajoutez 55 dollars. Alors que la moyenne historique, sur 1985-2021, c'était, par exemple, 10 dollars, un peu plus de 10 dollars par baril. Donc, vous voyez, on a fait quasiment fois 5. Sur les 10 dernières années, on était même plutôt plus proche des 4 dollars, un peu moins de 4 dollars par baril. Donc, vous voyez le bond d'un seul coup qui s'est fait sur cette marge du prix du pétrole. Et donc, sur le kérosène notamment, on aboutit à quoi? Le kérosène à New York la semaine dernière, il était à 275 dollars le baril. Donc, si vous voulez vous offrir un baril, ça vous coûtera quand même beaucoup plus cher que si vous l'aviez acheté en brut. Le diesel, il était à 175. Le super, à 155. Et ça, c'était avant les taxes et avant les marges. Donc, vous imaginez le résultat que ça produit à l'arrivée.
À quoi sont dus ces goulots d'étranglement?
En gros, il y a quatre grandes causes. D'abord, il y a la demande. Il y a la demande parce que il y avait une demande de consommation différée pendant le Covid. Et puis, la sortie du Covid fait que dans le monde, beaucoup de gens ont voulu plus de produits ou que des voyages ont repris, etc. Donc, la demande, elle est très forte alors qu'il y a des goulots d'étranglement sur la production et que l'effet prix, finalement, contrairement à ce que parfois nous expliquent ceux qui misent sur la taxe carbone et autres, il est assez lent. C'est-à-dire, si on regarde sur ces dernières années, le prix impacte assez peu la demande de pétrole. Ensuite, il y a les réserves, parce que là, pour fluidifier le marché, les États occidentaux ont des réserves stratégiques, donc ils ont injecté leurs réserves sur le marché. Sauf que les réserves, elles sont en brut, en général. Elles ne sont pas raffinées, donc il faut quand même les raffiner. Donc ça veut dire que vous avez un surplus de produits à raffiner par rapport à ce qui se passe en temps normal. Après, il y a les sanctions, parce que la Russie est elle-même exportatrice de produits raffinés ou semi-raffinés, notamment sur le diesel, et ça explique assez largement en Europe pourquoi le diesel est devenu plus cher cher que les prix du super, alors qu'en général, le rapport avait toujours été inversé. Et puis là où c'est vraiment intéressant, c'est sur les capacités de raffinage, oui, j'allais vous dire de raffinement, mais c'est parce que je vous voyais. De raffinage.
Je ressemble à un baril de pétrole, c'est pas grave.
Non, quelqu'un j'ai de raffiné.
J'ai bien compris, je vous taquine. Alors, racontez-nous, dites-nous.
Oui, parce que sur les capacités de raffinage, je trouvais les chiffres d'un expert de Morgan Stanley qui disait qu'en dehors de la Chine et du Moyen-Orient, donc sur les pays occidentaux, on a perdu l'équivalent de 1,9 million de barils jour de capacité de raffinage. Les sanctions pour la Russie, par exemple, c'est l'équivalent de 1,1 à 1,3 de barils jour. Et donc, à quoi c'est dû? Pourquoi est-ce qu'on a perdu autant de capacités de raffinage dans les pays occidentaux? D'abord, il y a les réglementations environnementales, notamment, qui font qu'il y a des gens qui ont souhaité se retirer du marché. Il y a aussi la rhétorique du pic pétrolier. On a beaucoup dit, on atteint le pic pétrolier. Puis forcément, quand vous renoncez à explorer pour trouver de nouvelles ressources, vous imaginez encore plus que vous rapprochez du pic. Sauf qu'encore une fois, on peut toujours dire qu'on s'approche du pic. La demande, elle ne baisse pas dans l'intervalle. Puis en général, les pays qui, eux, investissent, ils continuent à trouver de nouvelles réserves en plus. Après, il y a toute la rhétorique aussi contre les produits pétroliers. Et ça fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont souhaité se retirer de ce secteur-là et donc finalement qui ont d'elles-mêmes réduit leur capacité de production. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a un décalage entre les discours, notamment sur la transition énergétique, et sur la réalité, parce que la réalité de la demande, elle évolue beaucoup, beaucoup moins vite que tous les plans qui sont en général faits par les pouvoirs publics.
Alors maintenant, ça qui est intéressant, c'est aussi de savoir qui risque d'en pâtir le plus, qui risque d'en profiter, qui est gagnant, qui est perdant dans l'histoire.
Il y a un côté un peu la palissade, hein. Il y a une forme d'évidence. Ceux qui en pâtissent le plus sont les consommateurs, et notamment les consommateurs les plus exposés. On sait que beaucoup de gens ont investi dans des voitures diesel parce que le gouvernement, les pouvoirs publics avaient incité à acheter des véhicules diesel pendant longtemps, puisque les véhicules, le diesel faisait que c'était moins cher au total. Donc ceux qui consomment le plus, qui font le plus de kilomètres, mais surtout qui en profitent le plus, ceux qui ont été malins. Et qui a été malin? Les gens qui justement ne cèdent pas aux effets de mode, à la morale. Donc il y a des grands groupes pétroliers qui ont eux-mêmes, notamment les groupes européens, qui ont eux-mêmes réduit leur capacité de raffinage. Mais il y a des petits malins, des indépendants, qui eux ont augmenté leur capacité de raffinage. Et pendant ce temps-là, eux, ils font des super marges parce que forcément, c'est un marché de l'offre et de la demande. Il y a des groupes qui ne sont pas très connus et qui ne sont pas les géants. Justement, ce sont ni Total, ni les grands noms auxquels vous pouvez penser. Ce sont, j'ai oublié là les noms, mais je vous les redonnerai vous achetez un baril de raffiné.
Compris la manne qu'il y avait à se faire et qui ont augmenté leur capacité de raffinage.
Exactement. Et donc, à l'arrivée, le sujet, c'est, pensons-y, quand nous allons entendre la nomination de la personne qui sera en charge de la planification écologique, la vraie vie ne ressemble pas toujours à l'idée que s'en font. Alors, moi, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas se préoccuper des industries fossiles, hein, comprenez-moi bien. Et effectivement, plus on arrivera à trouver de moyens de substituer aux énergies fossiles d'autres énergies, et mieux ça sera. Mais ça ne sert à rien non plus de se mettre dans des impasses, parce que l'interdiction des véhicules à moteur thermique d'ici 2030, on ne sait pas faire. Donc on est en train de se précipiter dans le même type d'impasse. L'objectif en soi, tout le monde peut le partager, mais on ne sait pas faire. Et quand on ne sait pas faire, qu'est-ce qui se passe? Les prix, à l'arrivée, ils augmentent. Et qui en est le plus victime? Ceux qui ont le moins de moyens.
Vous voulez réagir, Marc? On en a déjà parlé.
Cette folie de... On est dans l'idéologie. On décide que la voiture électrique sera l'élément indispensable, l'élément de notre avenir, alors qu'il est évident qu'il est impossible, quand vous faites la moindre projection, d'imaginer un départ en vacances avec que des voitures électriques. Ça va péter de partout. Et imaginez en plein hiver, un hiver extrêmement rigoureux, où il y a la sollicitation pour le chauffage et les différents moyens, et... Comment vous allez avoir les voitures en disponibilité, une énergie disponible pour elles? C'est complètement fou.
Moi, je dirais que sur le pétrole, l'équation, c'est vrai qu'elle n'est absolument pas bonne pour les consommateurs, parce que ça fait 15 ans qu'on n'arrête pas de dire aux pétroliers qu'il faut tourner la page, qu'il faut aller s'orienter vers d'autres choses. Total l'a fait, toutes les grandes compagnies l'ont fait.
et elles ont désinvesti ce secteur-là, elles ne perçoivent plus,
elles cherchent... Elles ont de la peine à recruter même des salariés, hein, maintenant. Mmh. Les grandes entreprises du pétrole ont de la peine à faire venir les salariés chez eux.
Parce qu'en plus, c'est vrai, en plus, il y a le facteur moral. C'est-à-dire que les jeunes, aujourd'hui, le pétrole, c'est pas bien, il faut pas y aller. Et aujourd'hui, on se rend compte que ben, c'est peut-être planté. Je voudrais juste un truc qui m'a frappé. Il y a eu une grande conférence sur le pétrole il y a un mois et demi. C'est le secteur du pétrole aux États-Unis qui s'est rassemblé. Premier message qui a été donné par la ministre de l'énergie américaine, elle a dit « Surtout, vous produisez autant que vous pouvez. »
Ah oui.
Vous voyez, le monde d'après est en train de nous dire que finalement, le pétrole, c'était pas mal. Hein, et que avant d'envisager le changement, la transition énergétique, bah, la sécurité énergétique, ce serait pas mal.
D'autant qu'on a des moteurs avec 2 litres au 100 qui sont extrêmement propulsifs.
Quand vous allez arrêter vos courses automobiles, là, en douce, vous viendrez nous raconter. On vous voit venir, mon cher Marc. On va marquer une pause. Vous avez parlé du pétrole qui a du mal à recruter. On parlera du milieu hospitalier qui n'a plus de personnel dans la dernière partie avec vous, ma chère Charlotte. On va parler de cette jeune femme, Déborah Samuel, qui a été lapidée, brûlée, au Nigeria parce qu'elle était chrétienne. On va en parler et on va parler des conséquences pour nous en France et pourquoi le Parlement européen a refusé de parler de christianophobie alors qu'on sait qu'il parle d'autre chose. On marque une pause, à tout à l'heure. Pourquoi le Parlement européen refuse-t-il le débat sur la persécution des chrétiens? Il a refusé d'aborder la christianophobie et notamment le cas de cette jeune étudiante nigériane. On en parlera avec Charlotte Dornelas, lapidée, brûlée par des islamistes dans son pays. En Afrique, ces persécutions sont-elles une réalité, Charlotte, que nous avons peine à voir? Je dis ça parce qu'en plus, on n'en parle pas, on évite d'en parler. Juste avant, la Minute Info.
Damien Abad a tranché. Il quitte sa fonction de président du groupe Les Républicains à l'Assemblée dans un souci de clarté, de cohérence et de responsabilité. Pressenti pour rejoindre la majorité, Damien Abad est au centre de spéculation, mais précise que son choix n'est dicté par aucune logique électorale. Affaire Omar Haddad, nouvelle audience prévue le 15 septembre. Aujourd'hui, la défense de l'homme de 59 ans a présenté de nouveaux éléments en faveur de sa demande de révision. Une enquête de gendarmerie inachevée, menée entre 2002 et 2004. L'ancien jardinier, qui a toujours clamé son innocence, est accusé depuis 1991 du meurtre de Ghislaine Marchal, riche veuve d'un équipementier automobile. C'est une première depuis l'invasion de l'Ukraine. Les chefs d'état-major américains et russes se sont parlé au téléphone, a annoncé le Pentagone. Ils sont discutés de plusieurs sujets de préoccupation en matière de sécurité. Mais d'un commun accord, les deux hommes ont décidé de ne pas publier les détails de leur conversation.
Alors on va s'arrêter sur ce cas. Effectivement, on en a peu parlé. Ou pas du tout parlé, même dans les médias, je crois, Charlotte, de cette jeune Nigériane. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Terribles images. Chrétienne, lapidée, brûlée, parce que chrétienne, par des islamistes. Et on a envie de savoir, effectivement, est-ce que c'est une réalité qu'on a peine à voir? Et on a envie de savoir, effectivement, quelles sont les conséquences de ce manque de prise en compte de la christianophobie chez nous, en France et en Europe.
Alors, déjà, la persécution des chrétiens dans le monde n'empêche pas de dormir beaucoup de monde en Occident, pour le dire gentiment. Mais alors, particulièrement en Afrique, alors que c'est le continent le plus touché par les persécutions mortelles, c'est-à-dire vraiment les personnes qui meurent, en l'occurrence. Et le Nigeria, tout particulièrement. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, on avait parlé de ce rapport qui sort tous les ans sur la persécution dans le monde. Et il y avait l'année dernière 6000 chrétiens dans le monde qui avaient été tués à raison de leur foi. Et sur ces 6000 chrétiens, 8 sur 10 avaient été tués au Nigeria. Donc le Nigeria est vraiment un pays dans lequel la persécution est particulièrement forte. Alors en l'occurrence, cette étudiante qui s'appelle en effet Déborah Samuel Yakubu, elle a été assassinée par des étudiants de l'endroit où elle faisait ses études parce qu'ils avaient un groupe WhatsApp tous ensemble et qu'elle, apparemment, elle aurait mis un message en se plaignant du nombre de messages religieux des étudiants musulmans en disant « c'est pas tellement le lieu », etc. Bon, je sais pas, je n'ai pas eu accès à la conversation. conversation WhatsApp, mais bon, en gros, c'était le sujet. Et elle a été considéré son message comme un blasphème envers la religion. Et elle a donc été attrapée dans le. Alors, les autorités de l'établissement, pardon, l'ont protégée, l'ont enfermée dans une salle. Elle a été arrachée à la salle, lapidée, puis brûlée.
Donc, on a vu un groupe de personnes aller la chercher, l'arracher à la salle.
C'est ça. Donc, c'est un groupe d'étudiants, en l'occurrence. Hein, c'est pas un groupe islamiste
filmé et se vanter devant les caméras.
Exactement. Et on y a eu accès, vous le disiez, parce que la vidéo est arrivée sur les réseaux sociaux, en effet, dans les jours qui ont suivi. Alors, deux suspects ont été arrêtés dans la foulée et le gouvernement nigérian a promis que les vidéos allaient être étudiées justement pour arrêter le plus de gens possible. Et alors, bon, les autorités du pays, qu'elles soient civiles ou religieuses, et les autorités musulmanes notamment, hein, parce que chrétiennes évidemment, mais musulmanes aussi, ont évidemment condamné la chose en demandant immédiatement que la lumière soit faite sur cet assassinat. Mais dans la ville en question, qui est dans le nord du Nigeria, vous avez eu, après l'arrestation des deux suspects, des manifestations pour demander aux autorités de relâcher les deux suspects qui ont fait leur devoir, en gros, et de cesser la traque des gens qui étaient sur la vidéo. Alors évidemment, ces manifestations, elles sont pas, y a pas des millions de gens qui affluent de tout le Nigeria, mais elles existent. Elles existent et avec des gens plutôt assez jeunes. Alors ça, on se penche forcément pour élargir sur la question de la situation au Nigeria. Et ce qui s'est passé au Nigeria, c'est que, alors c'est le pays le plus peuplé d'Afrique, je crois, et y a 36 États fédérés dans ce pays-là, et il y a 12 États qui, dans les années 2000, ont voté l'instauration de tribunaux musulmans pour faire appliquer la charia en parallèle des tribunaux civils. Donc évidemment, il y a une contradiction même et une insécurité juridique énorme parce que les tribunaux islamiques peuvent dire parfois le contraire des tribunaux civils. Et il y a par exemple dans la constitution du Nigeria le droit à la liberté de conscience et à la liberté de changer de religion, ce qui est évidemment incompatible totalement avec la charia. Et vous avez dans ce pays et dans ces 12 États, en l'occurrence, qui appliquent la charia, des condamnations dans des tribunaux, des condamnations parfois jusqu'à la mort pour des questions de blasphème. Et on le sait notamment avec, vous savez, on avait beaucoup parlé au sujet du Pakistan, qui a également une loi anti-blasphème, que vous pouvez être accusé de blasphème pour mille et une autres raisons en plus que le blasphème lui-même, bon, qui ne nécessite jamais une condamnation à mort, hein, que les choses soient claires, mais vous pouvez avoir un différend avec votre voisin qui vous accuse de blasphème et c'est terminé pour vous. Donc c'est des lois extrêmement problématiques. Et vous avez une persécution par ailleurs ultra-violente physiquement, notamment dans le nord du pays et dans toute la ceinture centrale du pays. Vous avez les fameux groupes Boko Haram et État islamique en Afrique dont on a tristement entendu parler. Vous avez également des éleveurs peuls qui sont complètement radicalisés contre les chrétiens, donc avec des questions aussi de territoire. Et je vous le disais, 8 chrétiens sur 10 qui sont tués dans le monde le sont dans ce pays-là. Et on le voit avec l'exemple de cette jeune fille, ce n'est pas nécessairement des groupes islamistes organisés. Mais ce n'est pas Boko Haram en l'occurrence, ce sont des étudiants complètement radicalisés qui en viennent à lapider et brûler une de leurs congénères de leur établissement scolaire.
Et en public.
Et en le revendiquant, croyant avoir fait leur devoir.
Alors, justement, la question a été posée au Parlement européen par le député RN Jean-Paul Garot. C'est, est-ce que ça veut dire que l'Europe est capable de prendre vraiment ce sujet en main ?
Alors, en effet, c'est un ancien magistrat, Jean-Paul Garot, qui est en effet député au Rassemblement national, député européen. Et dans son intervention, il regrette le blocage par la Commission européenne, nous dit-il, il commence son intervention comme ça, de créer un poste de coordinateur de lutte contre les actes anti-chrétiens et d'établir une stratégie européenne pour lutter contre ce fléau. Et il fait le parallèle en disant qu'il y a des persécutions gravissimes partout dans le monde contre les chrétiens, qui sont la minorité la plus persécutée dans le monde. Et il dit qu'il y a des attaques qui sont évidemment incomparables en violence, mais réelles malgré tout, contre les chrétiens au sein de l'Europe. Et il évoque évidemment le cas français en particulier, puisqu'il est lui-même député français. Donc il regrette cette position de la Commission européenne et il demande au Parlement, ce jour-là, d'ajouter à son ordre du jour un débat sur la persécution des chrétiens dans le monde, en prenant comme point de départ de ce débat l'assassinat de cette jeune femme, pour élargir et recentrer ensuite sur la question de la haine antichrétienne qui se développe en Europe. Alors la proposition est immédiatement et majoritairement refusée par les parlementaires européens. Ils refusent de l'inscrire à l'ordre du jour. Pour information, ce même jour-là a été inscrit à l'ordre du jour du Parlement européen le cas, vous savez, de cette journaliste tuée en Israël. Journaliste palestinienne, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais tuée en Israël. Donc le Parlement, tout ça pour dire, ce n'est pas une question de qui souffre le plus dans le monde, c'est simplement la question... le Parlement est capable d'inscrire à son ordre du jour des questions
pas directement
européennes. Donc la proposition est refusée. Ensuite, pourquoi il parle de la Commission européenne ? Alors là, le refus de la Commission européenne, il date de quelques mois déjà. En mars 2022, la question avait été posée à la Commission européenne, donc d'inscrire, de créer ce poste de coordinateur de lutte contre les actes antichrétiens. La vice-présidente de la Commission, à l'époque, répond que la Commission s'engage à protéger toutes les minorités, donc les chrétiens aussi, aucun problème, mais elle ne prévoit pas, et là je cite, de stratégie spécifique pour lutter contre la christianophobie et n'envisage pas de nommer un coordinateur chargé de cette question. Pourquoi est-ce que c'est étonnant comme réponse et pourquoi est-ce que le député, en l'occurrence, pose cette question ? Parce qu'en 2015, la Commission a créé un poste de coordinateur chargé de la lutte contre l'antisémitisme et en 2018, un coordinateur chargé de la lutte contre la haine anti-musulmane. Donc à ce moment-là, la Commission répond, enfin là aujourd'hui, la Commission répond, on ne fait pas de distinction entre les religions, on protège toutes les minorités, évidemment s'il y a des chrétiens persécutés, on les protégera, mais refuse d'examiner cette haine-là en particulier. Et récemment, il y a un autre commissaire qui s'est penché sur la question, qui a également refusé la chose et qui a dit de toute façon, l'objectif commun reste le même, constituer une société européenne ouverte, inclusive et respectueuse. Donc c'est tous ces mots un peu valises qui n'engagent pas vraiment très concrètement. Et le Parlement européen, lui, a voté le 4 mai dernier un rapport sur la persécution des minorités religieuses dans lequel rien n'est très clairement défini, mais surtout il y a eu pas mal de réactions, puisque les références à l'ampleur de la persécution antichrétienne dans le monde et à la spécificité des actes contre les chrétiens dans l'Europe ont été supprimées dans ce dossier. Ça n'est signifié qu'une fois au milieu de toutes les persécutions qui existent. Et donc ça a été, il y a surtout rien de très concret dans l'engagement et dans le constat et même dans la compréhension de cette hausse des violences, que ce soit dans le monde et en particulier en Europe, ce qui concerne évidemment directement la Commission.
Alors justement, pourquoi faudrait-il s'en inquiéter particulièrement ? Quelle est la réalité de cette haine à travers le monde et en France aussi ?
Alors c'est ça, et je pense que d'abord la première chose à faire quand on parle de, c'est pour ça le terme de christianophobie, je comprends bien il est créé en parallèle, mais il faut s'attarder sur la confusion des accusations. C'est-à-dire que le terme de phobie, vous savez, on l'a collé à toutes les sauces, et ça signifie aussi bien la critique d'un dogme, la critique rationnelle d'un enseignement religieux, que l'insulte, que les coups portés, et on regroupe tout ça dans une phobie, alors l'islamophobie, la christianophobie, ou alors l'antisémitisme, c'est un autre mot, évidemment, mais on confond finalement des choses qui sont absolument impossible à confondre. On peut critiquer rationnellement, on peut interroger, on peut débattre à la fois des dogmes et de l'enseignement d'une religion. Enfin, dans un pays libre ou dans un pays qui se revendique libre, on peut évidemment le faire. En revanche, aller taper sur quelqu'un à raison de ce qu'il est ou de ce qu'il croit, c'est évidemment interdit et parfaitement amoral. Donc déjà, je pense que la confusion des termes empêche de lutter réellement contre le fléau de la violence. Et sur la violence pure, donc là je m'attarde vraiment sur la question de la violence, les chiffres sont vraiment inquiétants. Alors je vous parlais des chiffres dans le monde entier, où c'est très clairement les chrétiens qui sont les plus persécutés dans le monde. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire une échelle, c'est-à-dire qu'il y ait une seule personne d'une autre minorité tuée parce qu'elle est...
Il n'y a pas d'échelle de la souffrance, mais les chiffres...
Mais c'est quand même un sujet... Enfin, l'ampleur de la persécution est énorme. Et en effet, c'est un sujet dont on parle peu. Ensuite, en Europe, alors il y a les chiffres de l'OSCE. Alors évidemment, les méthodologies sont compliquées à comparer, mais ce qui est sûr, c'est que l'OSCE notait une augmentation de 96% en Europe des actes contre les chrétiens l'année dernière. Donc il y a quand même une augmentation de cette haine-là contre les chrétiens. En France, vous savez, le ministère de l'Intérieur sort des chiffres tous les ans et c'est les mêmes proportions d'augmentation. Et on le note chaque année, les chrétiens, les lieux de culte chrétiens et les chrétiens sont les plus visés. Vous vous souvenez, on avait parlé de ces processions qui avaient été attaquées. On se souvient évidemment du Père Hamel, on se souvient de Nice aussi. Alors il y a évidemment des auteurs qui sont différents. Là, c'est des islamistes en l'occurrence. Il y a parfois des antifas. C'est des auteurs différents et ça mérite une chose. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet qui se pose et qui peut se poser aussi spécifiquement. Et là, la Commission européenne, vous savez, les instances de l'Union européenne, pourquoi est-ce que je m'attarde dessus ? Parce que vous vous souvenez, on a beaucoup parlé, hein, les instances de l'Union européenne vous expliquent que pour avoir une société plus inclusive, le mot Noël est extrêmement agressif pour toutes les populations qui ne fêtent pas Noël et qui vivent désormais en Europe. Et par contre, elle ne veut pas se pencher spécifiquement sur cette haine antichrétienne. On comprend que là, il y a clairement un biais idéologique gravissime pour un continent où certes, les actes sont plus nombreux. On nous dit toujours, évidemment, les actes sont plus nombreux, il y a plus d'églises et plus de chrétiens. Bah oui, mais c'est peut-être ça qui devrait pousser l'Europe à se souvenir parfois qu'elle n'est pas juste un marché, qu'elle est aussi une civilisation qui, en l'occurrence, repose sur le christianisme et qu'à ce titre-là, ça devrait la préoccuper peut-être plus que les autres.
Merci beaucoup pour cette analyse, Charlotte, et très précieuse en tout cas, ces informations. Portrait d'une des grandes figures de l'histoire, un homme qui a sauvé la France, le Grand Condé. On va partir du 19 mai 1643, jour pour jour, 7 ans après le début de la guerre contre l'Espagne, et il va sauver la France.
Oui, alors, la guerre contre l'Espagne, elle n'est pas comme ça par hasard. C'est le cardinal de Richelieu qui l'a décidé contre l'avis de l'entourage du roi Louis XIII. Mais pourquoi? Parce qu'il estime que d'un côté, les Habsbourg et puis l'Espagne, qu'on se retrouve dans un étau, que les autres vont se coaliser et que la France est menacée. Alors, hop, on sort les armes, il faut lutter. Richelieu, il meurt quelques mois auparavant, le roi Louis XIII. Il est de plus en plus mal au mois de février, alors qu'il n'arrive plus pratiquement à se lever. Il fait venir le petit Louis, le petit bambin, il a 4 ans. Il lui dit « Comment vous appelez-vous » Il est presque déjà dans un râle. « Comment vous appelez-vous » Et le petit Louis XIV, c'est la célèbre réplique. « Louis XIV, mon papa ?» Et il dit « Pas encore, pas encore. » Reste que le 14 mai, eh bien le « pas encore », notre enfant de 4 ans devient le successeur de Louis XIV. De Louis XIII. Mais que s'est-il passé entre-temps? La guerre, elle continuait. Et il fallait un chef d'armée, et ce chef d'armée... Il a 22 ans, il s'appelle le duc d'Enghien, futur Condé.
Après la Minute Info, on a envie de savoir qui est cet homme qui a sauvé la France. Page de l'histoire avec Marc Menant dans un instant. La Minute Info.
Libération conditionnelle de Patrick Balkany. Le tribunal d'application des peines rendra sa décision le 30 mai. Aujourd'hui, le parquet d'Evry s'est opposé à la demande. L'ancien maire LR de Levallois-Perret est incarcéré depuis 3 mois à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis dans l'Essonne. Il avait été condamné pour blanchiment de fraude fiscale. En Ukraine, ce bilan provisoire d'au moins 12 morts dans des bombardements russes à Sévrodonetsk, à l'est du pays. Au moins 40 personnes ont été blessées. La ville est quasiment encerclée par les forces de Moscou. Les Russes ont commencé à bombarder dans la matinée le centre régional de manière aléatoire avec des armes lourdes. Les bombardements se poursuivent. Près de 15 000 habitants sont encore sur place. En France, le mercure n'a pas fini de grimper. Le pays vient d'égaler un record de chaleur pour ce printemps, avec 38 jours consécutifs au-dessus des normales de saison. Un record déjà établi entre avril et mai 2007 qui pourrait être battu. De fortes chaleurs sont attendues au moins jusqu'à samedi.
Donc, ce grand Condé, il a 22 ans, il a 4 ans, le petit Louis.
Oui.
Voilà, et ce sont des ennemis, finalement, ils vont...
Dans un premier temps, c'est le cousin.
Oui.
Et c'est plus fort que ça. Vous savez que Louis XIII n'arrivait pas à avoir de descendants, et celui qui risquait d'être sur le trône par substitution, c'était cet enfant, le duc d'Enghien.
Ah.
Que d'éducation qui lui est donnée, il faut qu'il soit brillant, le père veille à ça. C'est dans le Berry, ce qui fait qu'il ignore tout de ses intrigues de cour, de ses façons de paonner pour être au plus proche du soleil, ce que deviendra le roi. Mais en l'occurrence, c'est lui qui pourrait tenir ce rôle. À l'équitation, il est brillant, enfin bref, toutes les qualités possibles et inimaginables. Et c'est sans doute pour ça que Louis XIII a désigné à la tête de ses armées. Le 14, le roi est défunt, il apprend la nouvelle et là, il la cache forcément à ses hommes. Il faut dire qu'il y a eu de telles révoltes contre les impôts infligés par Richelieu pour payer la guerre qu'on n'a pas une armée qui est véritablement une armée, je dirais, d'une coalition. C'est une armée qui a été montée avec des mercenaires, des spadassins. Et il faut vraiment quelqu'un d'une grande envergure pour tenir ces hommes-là. Et c'est Condé, 22 ans, incroyable. Il a le nez, vous voyez, comme le bec d'aigle, les yeux bleus. Quand il vous regarde, vous êtes pratiquement hypnotisé. Il est d'une fierté altière, passe devant ses troupes. Et on sent qu'aussitôt, on est galvanisé. Lorsqu'il s'agit d'envisager d'affronter les Espagnols, 28 000 hommes, il a ses 20 000 seulement de son côté. Passons les détails. Le 19 au matin, la veille, il y a eu quelques escarmouches provoquées par l'un de ses officiers. Il était furieux, il a arrêté l'hémorragie parce que les Espagnols tout de suite montraient qu'ils étaient plus puissants. À 3 heures du matin, Il se fait réveiller, il est sous sa petite tente avec ses laquais, on fait attention à lui. Là, il ne met pas le casque, c'est le chapeau, et il va passer les troupes en revue. Il leur dit, c'est le moment d'affronter ses ennemis. Ils sont forts, ils sont brillants. Mais pensez à vos aïeux. Vos aïeux vous ont montré la voie et moi je serai à la hauteur de mon sang. Et là, cette harangue, ce sont les acclamations les plus totales. Reste qu'ils ne sont que 20 000 et 28 000 en face. Et là, il va inventer la stratégie Napoléon. C'est-à-dire que la rapidité, la cavalerie, on attaque, on reflue. Et les éléments qui lui permettent de tenir, c'est cette capacité à l'improvisation et toujours à tenir ses hommes. Ça tombe ici et là. Au milieu de l'après-midi, on a le sentiment que c'est perdu. Alors là, eh bien, il va encore plus loin dans sa folie. C'est une véritable ordalie. On se demande comment. Il ne tombe pas. Il est le premier face aux Espagnols. C'est la victoire de Rocroi. Et c'est pour la première fois depuis des années que la France montre qu'elle incarne une puissance. Alors ça, forcément, lui qui n'est déjà pas spécialement modeste, ça titille son orgueil. Quand il arrive à la cour, on l'appelle « Monsieur le Prince ». Anne d'Autriche, forcément, lui est reconnaissante. Il a une arrogance inouïe, des exigences, il veut qu'on nomme. C'est pratiquement lui le roi, puisque notre petit bonhomme, lui, il n'a que 4 ans, il ne peut faire rien. Puis il y a un personnage qui est à côté d'Anne d'Autriche, c'est Mazarin. Mazarin, c'est presque un usurpateur, un homme qui n'est pas du sang. Il faut rappeler la carrière et le destin de Mazarin. Alors, il faudrait l'éliminer. Et c'est là que l'ensemble va se conjuguer. Il y a les deux fronts. La première des magistrats, il est toujours du côté d'Anne d'Autriche. Il arrive à écraser les magistrats. Mais comme il est de plus en plus impudent, il est rejeté par tout le monde, bien qu'il soit dans cette vigueur incroyable. Mais il finit par déplaire. Et le fait de ne plus avoir la même prestance, le même regard accordé, ça le ronge. Et comme il voit, là aussi il y a des rumeurs, il semblerait qu'Anne d'Autriche avec Mazarin. Oui, 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 Anne d'Autriche et Mazarin. Alors là, il invente tout simplement une sorte de traquenard du cœur. Il choisit l'un de ses proches pour devenir l'amant de la reine. Quand celle-ci découvre ça, hop, il est envoyé à Vincennes. Le donjon, mais toujours avec les laquais, etc. Donc il attend de s'en occuper. Reste que la situation se détériorera comme il n'est pas permis. Il finira même par rejoindre les Espagnols. C'est la trahison la plus totale. Il est condamné à mort. Mais après des années, enfin, le traité des Pyrénées est signé, ce qui permet à Louis XIV d'épouser la petite Marie-Thérèse. Et maintenant qu'on est en paix avec les Espagnols, on oublie les mauvaises attitudes du cousin. Mais c'est pas encore la totale réhabilitation. Il s'installe à Chantilly, dans le château de la famille. Il favorise les écrivains, il favorise les peintres, il favorise les scientifiques. Et là, il montre une splendeur, un goût du raffinement. C'est extraordinaire. Et un jour, enfin, Louis XIV accepte une invitation. Il le fait savoir. Et c'est ainsi qu'une grande fête est organisée. Fête qui sera fatale à son cuisinier, Vatel, qui n'arrivait pas tant à attendre dans l'impatience que les poissons soient là à l'heure. Il c'est un déshonneur et il se tue sur son lit. Et notre prince de Condé va régner comme ça avec le roi maintenant qui le tient en grande considération, tant et si bien qu'il aura même des funérailles nationales à Notre-Dame et avec un éloge signé de Bossuet. Son camarade d'enfance, Bossuet, l'emphase, et notre Condé qui a tout jamais resplendi au firmament des héros de notre pays.
Merci beaucoup, mon cher Marc. Donc le grand Condé qui sauve la France, qui a un traite et qui a des funérailles nationales.
Voilà.
Oui, bon, mais je résume.
Oui, oui, mais également qui favorise, oui, oui, qui favorise les scientifiques. Il est là, il est paterne, si je puis dire, Molière, il paterne Racine. C'est extraordinaire, cet homme du raffinement, de cette envergure intellectuelle.
C'était l'époque du raffinement.
Ouais.
Merci beaucoup, mon cher Marc.
Exactement. Je vois que vous suivez. Je ne sais pas si tu as touché.
C'est tout compris. C'est juste suspendu à vos lèvres, mon Marc. On va parler de la situation de l'hôpital, parce que là, il y a quand même quelque chose à dire. Si vous allez à Bordeaux cet été, par exemple, ou bien même là, pas la peine d'aller la nuit, hein, si vous avez une urgence, vous le savez. Bon, Marc, bon. On a appris cette semaine, Jean-Sébastien, que les urgences adultes du CHU de Bordeaux allaient devoir fermer la nuit, faute de personnel. Et qu'à d'autres horaires, les patients seraient accueillis par des bénévoles. Le président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers, Patrick Peloux, a pour sa part dénoncé une situation catastrophique dans les hôpitaux. Et il affirme même que l'été, je cite, va être atroce, du jamais vu. Mais que se passe-t-il donc dans les hôpitaux alors qu'on le voit, la pandémie recule? Et faut-il avoir peur?
Alors sur Bordeaux, parce que vous parliez de l'hôpital de Bordeaux, effectivement, qu'est-ce qu'on a appris cette semaine? C'est l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui l'a annoncé. Donc les urgences de Bordeaux seront dorénavant fermées la nuit. Alors il y a deux périodes différentes. Il y a la période 17h, ça commence tôt, hein, 17h-22h, où là il y aura d'abord un filtrage et une régulation. Et la période ensuite 22h-6h du matin, alors là ça sera vraiment vraiment fermé. Et donc si vous arrivez, bah, vous serez mis en contact avec une personne du SAMU, mais donc mieux vaut appeler. Et comme vous le disiez, il y a même des bénévoles qui vont être délégués pour accueillir les patients. Donc c'est vrai que tout ça, et notamment des gens de la protection civile, tout ça est assez perturbant, parce qu'on peut difficilement argumenter, enfin, ou arguer du fait que Bordeaux serait une ville déshéritée, que Bordeaux serait dans la diagonale du vide, qui serait difficile d'attirer des soignants pour s'installer à Bordeaux. Donc c'est effectivement révélateur d'un problème beaucoup plus large. Et le problème, il est beaucoup plus large, parce que vous citiez Patrick Peloux qui parlait de cet été, mais ça dépasse ça. Il y a apparemment une cinquantaine de services qui sont en situation de fermeture totale ou partielle en France à l'heure actuelle. Une cinquantaine de services d'urgence. Je ne sais pas si on mesure bien ce que ça représente pour les personnes qui vivent sur les territoires concernés, notamment l'hôpital d'Orléans qui avait fermé son service parce que quasiment tout le personnel était en arrêt maladie ou en burn-out. Quasiment tout, vous m'entendez bien. Donc on parle de la santé justement du personnel soignant lui-même. Quand on s'intéresse à la santé mentale, alors le Covid est passé par là effectivement et a un poids très lourd, mais il y a à peu près une personne sur deux qui serait concernée par des symptômes un peu dépressifs. Et il y a 80%, c'est le collectif Nos Services Publics qui a travaillé dessus, 80% des médecins et des soignants qui disent qu'ils sont confrontés à l'absurdité, qu'ils ne voient plus le sens de ce qu'ils font. Donc ils continuent à croire à l'intérêt général et malgré tout, donc ils continuent à s'engager, mais 80% qu'ils disent ce qu'on me demande de faire relève de l'absurdité. Et le problème est encore plus large, parce que ce ne sont pas que les services d'urgence. J'entendais ce matin le professeur Rémi Salomon, qui lui représente les médecins de CHU, de centre hospitalier universitaire, et qui disait il y a 10, 15, 20%, pas très précis, mais 10, 15, 20% des lits qui sont fermés en France à l'heure actuelle, faute de personnel, vous vous rendez compte, et plus encore d'ailleurs en Ile-de-France. Alors avec là l'été qui s'annonce, les vacances qui n'ont pas été prises pendant la période de Covid, effectivement, on va vers un été très très difficile. C'est déjà le cas structurellement chaque année. Il y a des tas d'opérations qui sont suspendues, mais là, ça va être très difficile manifestement cet été.
Alors, plusieurs syndicats hospitaliers dénoncent une gestion libérale de l'hôpital et le manque de moyens. Est-ce que ce diagnostic vous paraît justifié ?
Ça, effectivement, vous dites toujours, c'est la logique libérale qui l'emporte et qui a tué le système de santé français. Alors, effectivement, on peut dire salaud de libéraux. Moi qui suis un salaud de libéral, j'ai quand même posé la question. Il me semble quand même qu'a priori, dans un système libéral, il y a un principe de responsabilité, un principe de sanction. Je vous le disais tout à l'heure, l'hôpital de Bordeaux, c'est l'ARS qui a annoncé la fermeture des urgences. Ce n'est pas le directeur de l'hôpital. Croyez-vous que le directeur de l'hôpital, quelqu'un va lui demander des comptes? Avez-vous entendu parler déjà d'un directeur d'hôpital à qui on serait allé demander des comptes? 50 services fermés à l'heure actuelle, on leur demande si leurs services sont bien organisés. Parce qu'il faut quand même savoir que le privé, ça existe aussi en France. Bizarrement, il y a beaucoup moins de problèmes pour attirer le personnel. Et curieusement, il y a aussi des urgences dans le privé. Elles ne sont pas fermées. Donc peut-être y a-t-il quand même un problème de management public. Je vois pas bien en quoi ça a à voir avec le libéralisme en soi. Je pense qu'on confond une logique comptable avec une logique libérale. Mais ça n'a rien à voir. Une logique libérale, elle demande de l'efficacité. La logique comptable, elle impose des normes et des règles. Plus de 35 000 règlements pèsent sur les hôpitaux français. Et puis, dans un système libéral, je ne crois pas qu'on en viendrait à forcer. Ça fonctionne mal, donc on pénalise les autres. Parce qu'il y a quand même le docteur Valtou qui représente, qui est le président, de la Fédération hospitalière hospitalière. Il faut savoir qu'il y a le vrai ministre de la Santé, puis il y a deux vice-ministres de la Santé, la Fédération hospitalière et le président de la CNAM. Alors lui, il dit carrément, eh ben, il faut forcer les médecins généralistes à faire des gardes. Donc c'est magnifique. Donc, ils n'arrivent pas à manager l'hôpital, mais on va aller forcer les médecins libéraux à faire des gardes. Donc je ne vois pas en quoi, dans tout ça, il y a la moindre logique libérale. Et puis, si on en vient à la question des moyens, regardons la question des moyens. Donc, quel est le pourcentage de notre richesse nationale que nous consacrons à la santé? La réponse est 12,2%. C'est quasiment au sommet de tous les pays de l'OCDE. Plus fort que nous, il y a uniquement les États-Unis, mais parce que leur santé privée, pour le coup, coûte très cher, et l'Allemagne qui est un tout petit peu au-dessus. Mais si on regarde sur les hôpitaux, c'est-à-dire les moyens vraiment alloués aux hôpitaux, alors là, nous sommes à 4 points de dépenses. Il n'y a que la Suède, parmi les pays de l'OCDE, qui consacre plus à l'hôpital que la France. C'est-à-dire que nous dépensons beaucoup plus que la quasi-totalité des pays de l'OCDE pour les hôpitaux. Après, il y a le nombre de lits. On a beaucoup dit il manque de lits, etc., et notamment de lits de réanimation. Oui, mais parce que nous ne faisons pas tout comme tout le monde. Hein. Donc, les autres pays, ils ont une catégorie de lits de réanimation. Pardon. Nous avons les lits de soins critiques. Il y a 5 catégories différentes. Quand vous faites l'addition des 5 catégories différentes, vous voyez que la France est dans une honnête moyenne et même plutôt un peu meilleure que la moyenne des pays de l'OCDE. En quoi serions-nous aussi dans un pays libéral quand la France est le pays de tous les pays de la zone euro, celui où le reste à charge reste le plus faible, c'est-à-dire ce qui reste à payer effectivement par les assureurs maladie. Venons-en au nombre de fonctionnaires aussi. Le nombre de fonctionnaires, quand on regarde par rapport à 1997, si on le prend en base 100, par rapport au nombre de fonctionnaires qu'il y avait à l'époque, de fonctionnaires hospitaliers, nous sommes arrivés maintenant à 135, c'est-à-dire plus 35%. Dans le même temps, la totalité de l'emploi public et privé a fait plus 15%. Vous voyez bien la différence. On a beaucoup plus recruté de gens dans l'hôpital qu'on a recruté de gens dans le pays de manière générale.
Quelles seraient les solutions pour sortir l'hôpital de la crise? On en parle juste après la Minute Info.
Nouveau gouvernement, Emmanuel Macron temporise. La première ministre planche sur sa composition, un processus qui requiert du temps, précise Elisabeth Borne. Le chef de l'État, lui, affirme que le travail continue de manière sérieuse, mais cela n'est pas une chose légère et prendra autant de temps que nécessaire. Premier déplacement officiel pour Elisabeth Borne aujourd'hui. La nouvelle chef du gouvernement s'est rendue aux Mureaux, dans les Yvelines. L'occasion d'échanger avec des représentants d'associations locales et nationales. Au menu, égalité des chances et émancipation des jeunes femmes. La première ministre a encouragé ces dernières à aller au bout de leurs rêves. L'association de défense des consommateurs Foodwatch porte plainte contre Kinder et Buitoni. Cela fait suite au scandale des contaminations à des bactéries présentes dans les chocolats et les pizzas des deux marques. Foodwatch pointe leur irresponsabilité et entend casser le climat d'impunité face à ces multinationales.
Nous sommes sur le diagnostic tragique de l'hôpital français. Quelles sont les solutions, quelles seraient les solutions pour sortir de la crise?
Oui, parce qu'on en a besoin de solutions. Quand on vient de traverser une pandémie, il faut bien voir qu'il n'y a eu aucune réorganisation systémique de l'hôpital français. Aucune. La seule innovation qu'on avait envisagée, c'est-à-dire les brigades sanitaires, c'est-à-dire les équipes mobiles, elles n'ont même pas été développées. Donc autant vous dire que s'il y a une nouvelle pandémie, de toute façon, vu qu'il y a beaucoup moins de soignants, nous ne serons pas dans une situation extrêmement favorable. Et le bilan de la réforme Juppé, des réformes Juppé de 1995, qui ont créé les ARS et qui ont créé cette logique administrative folle, est absolument accablant. C'est ça qui a amené l'hôpital français là où il en est. Donc sur les solutions, j'ai appelé le docteur Pelouse, qui travaille beaucoup avec nous sur Atlantico. Je vous invite d'ailleurs, il écrit des choses extrêmement intéressantes sur, parce que c'est toujours facile de critiquer, encore faut-il être capable de proposer des choses. Je pense qu'il faudra mener une réflexion sur le temps de travail, parce que dans les hôpitaux, par exemple, les ambulanciers, ils travaillent 32 heures. C'est un service, d'ailleurs, qui n'a pas vocation à être public. Ça pourrait tout à fait relever du privé. Dans les hôpitaux, il y a beaucoup de gens aussi qui sont sur des emplois qui ne relèvent pas du médical. Donc on pourrait se poser cette question de la réorganisation. La différence, la masse salariale des hôpitaux, c'est 68%. 68% du chiffre d'affaires des hôpitaux, c'est de la masse salariale. Dans le privé, c'est 48%. 20 points d'écart. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ces 20 points d'écart? Il se passe de l'administration et il se passe du technico-médical, c'est-à-dire des professions qui ne sont pas médicales, mais celles qui avant, par exemple, étaient menuisiers, étaient gérées. Avant, dans un hôpital, on faisait tout. Il y avait même le potager. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Après, il y a beaucoup de pistes sur les urgences, notamment. On pourrait, alors, c'est un peu ce que l'hôpital de Bordeaux a commencé à faire, mais sauf qu'il le fait sous la contrainte. Donc, ça n'est pas organisé. Certains hôpitaux, comme celui de Poitiers ont commencé à le faire, c'est-à-dire de la régulation. C'est-à-dire, ça ne sert à rien que tout le monde aille aux urgences En même temps, vous pouvez d'abord appeler et en fonction de du caractère d'urgence de la condition que vous décrivez, on vous donne rendez-vous à telle heure ou à telle autre. Parce qu'à l'hôpital de Bordeaux, il y avait 12 heures d'attente. Il y a les problèmes de formation, puisqu'on sait très bien qu'on a fait n'importe quoi. On est d'une hypocrisie folle sur les médecins en France. On élimine des gens à 13 de moyenne dans les concours. En revanche, on va recruter des gens dont on sait, à l'étranger, dont on sait très bien que les diplômes n'ont pas exactement, et ce n'est pas une posture de principe, hein, mais parce que tous les pays mais ne sont pas systématiquement équivalents. Donc on est dans une espèce de système de dingue, et il ne s'est rien passé véritablement, le Ségur de la Santé, parce qu'il y a aussi les hôpitaux qui sont endettés. Parce qu'il n'y a pas de responsabilité financière, évidemment, des directeurs d'hôpitaux. Et qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Il a juste promis 13 milliards de remise sur la dette des 30 milliards. Mais ça, pourquoi pas? On peut le faire. Sauf qu'en échange, il faudrait peut-être demander une réorganisation, effectivement, du travail.
Alors, je vous pose une question de béotien, puisque beaucoup de personnes se disent, voilà, moi, je regarde les médias, je regarde les infos, je vois qu'on donne beaucoup d'argent à l'Ukraine, et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne donne pas de l'argent à nos hôpitaux. On en a besoin. Est-ce que c'est absurde de se poser une question telle que celle-là?
Je comprends qu'un certain nombre de gens se la posent. Je pense qu'elle est un peu à côté du sujet. Le sujet n'est pas que nous manquons d'argent. C'est ce que je vous disais. Nous consacrons plus d'argent que la quasi-totalité de nos voisins à l'hôpital public. Le sujet, c'est que faisons-nous de notre argent? Le sujet, c'est vraiment l'allocation des moyens. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Juste un dernier exemple. Dans un hôpital public, c'est un soignant pour deux administratifs. Dans le privé, c'est un pour un. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup plus de gens qui sont mal soignés dans le privé?
Donc le libéralisme est la solution, en fait.
Non, mais le libéralisme, ça peut être l'économie sociale de marché. En Allemagne, par exemple, les caisses de santé ont été mises en concurrence. C'est pas le privé, ce ne sont pas des assureurs privés. Ça reste des statuts mutualistes. Simplement, la concurrence, ça force à la responsabilité. Et il y a des hôpitaux qui sont bien gérés. Tous les hôpitaux ne sont pas endettés. Parmi les hôpitaux français, la dette, elle est concentrée sur certains hôpitaux. Mais comme il n'y a pas de responsabilité, ni
sanction, le libéralisme,
ni
néanmoins, a supprimé nombre d'hôpitaux dans des petites villes moyennes.
Vous parlez du gouvernement français,
Marc.
Mais
non,
ça n'est pas le libéralisme.
Au nom de la rentabilité.
C'est la technocratie. La technocratie, c'est pas la
même
chose.
Merci beaucoup pour cette analyse. Merci à tous. On a compris en tout cas des applaudissements du personnel soignant au déclassement. Ça, on l'a compris. Excellente suite de programme. Tout de suite, Pascal Pro.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.